Je m'appelle Pascal Lévesque.
Je m'appelle India Desjardins.
Bienvenue à Noël en rafale. Deuxième épisode et aujourd'hui on va s'attaquer au film A Journey Back to Christmas. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'on a encore quelques précisions à faire sur la nature des films Hallmark qu'on analyse toi et moi, India.
Oui, puis tu sais justement, je voyais la dernière fois que j'ai parlé de ma passion pour les films Hallmark. Là, il y a quelqu'un qui a envoyé sur mon wall, hey, un calendrier de l'Avent pour toi. Et là, c'était un palmarès des films comme Home Alone, Love Actually. Et faut préciser que c'est pas de ces films-là dont on parle.
Non, c'est pas encore rentré dans la tête de nos nombreux fans.
Nos mères.
nos mères non plus ne comprennent pas nécessairement la nature de notre...
Oui, ma mère, elle comprend. Je voulais dire que nos mères sont nos deux seules...
Ah oui, nos mères sont nos deux seules fans. Ah oui, ils comprennent. Ben, ça veut dire que...
Ma mère, elle comprend.
Ah, mais c'est accessible à tout le monde de comprendre. Donc, on a pensé essayer de vous le faire comprendre par l'exemple en construisant nous-mêmes notre petit scénario de film Hallmark. Parce que quand on a annoncé sur Facebook qu'on jonglait avec l'idée de faire un podcast à propos de ces films-là, il y a des gens qui nous ont indiqué qu'il y avait un autre podcast de Noël qui s'appelle Noël chez Isidore. On les salue oui. D'ailleurs.
Les fans de ce podcast-là étaient comme un peu outrés parce qu'ils disaient, ben voyons, vous allez copier. Et non, ce n'est pas une copie. On ne fait pas... On les adore.
On les adore.
On ne fera pas comme eux. Je connais bien le producteur, je salue Benoît aussi, qui est très gentil, puis qui m'a envoyé des épisodes, puis c'est correct, là, on est amis.
D'ailleurs, on salue le travail de Simon Chénier, Sophie Croteau, Étienne Forêt, qui font ce podcast-là, Noël chez Isidore. Mais dans cet imbroglio-là, on s'est dit, voilà, c'est la graine pour semer un film de Noël Hallmark, parce que tous les éléments y sont.
Oui.
Alors, on a imaginé un petit scénario.
Tu as imaginé.
Ben oui,
tu me le fais en surprise.
Je te le fais en surprise. Bon, donc, il y a deux podcasts sur Noël. Puis là, cette semaine, tout le monde est en ville pour la convention des podcasts indépendants. Alors, Simon, du podcast vedette Noël chez Isidore, va être là. C'est la star de la convention. Et India, qui est débutante dans son podcast de Noël, s'inscrit. Elle rêve de le voir, mais ils se sont jamais vus.
Je rêve de faire un podcast de Noël, en fait.
Tu fais un podcast de Noël, mais tu sais pas comment t'y prendre.
Moi, je suis une avocate.
T'es une avocate dans la vie.
Mais je veux, en réalité, faire un podcast de Noël.
Exactement. Et ton idole, ben c'est Simon de Noël chez Isidore, mais... Tu l'as jamais vu parce que, tu sais, des podcasts, ça se passe à la radio.
Oui.
Donc, c'est sûr que jamais, t'as vu son visage ou que lui a vu ton visage parce qu'il n'a jamais eu besoin d'une avocate. Donc, t'espères rencontrer Simon, mais tu te sens seule en même temps parce que Noël s'en vient. Fait que tu te dis, pourquoi pas, je m'inscris sur Tinder et vous trouvez chacun de votre goût et vous rencontrez dans un café. Mais tu le sais pas que c'est Simon.
OK.
Sauf que, lui, il t'a reconnu.
Hein?
Oui.
Comme avocate.
Il a compris que c'était toi, la fille, qui essayait d'avoir un podcast de Noël et qui savait pas pantoute comment le faire.
Puis là, on est-tu en conflit?
Pas encore. Lui, il est curieux. Il veut en savoir plus sur ton projet parce qu'il se dit, on va garder mes ennemis plus près de moi. Fait qu'il garde son pseudo Tinder puis il veut pas que tu découvres son identité. Vous correspondez, vous échangez des trucs, il t'encourage à poursuivre ton rêve de quitter ton cabinet d'avocat.
On fait-tu des biscuits éventuellement?
Attends. Et tu veux animer ton émission de radio, puis là, c'est là que la magie de Noël l'envahit et vous vous retrouvez à faire des biscuits, des maisons en pain d'épices, vous allez jouer dehors dans la neige.
On va-tu à la messe?
Pas encore, parce que il va t'inviter éventuellement pour que tu rencontres sa famille. Mais là, la grande convention a lieu et là, c'est là que Simon monte sur la scène et que tu le reconnais.
Oh mon Dieu!
Là, tu réalises que c'était ton gars de Tinder, c'est le Simon vedette de chez Noël, chez Isidore. Alors, la question, est-ce que la magie de Noël sera plus forte que le mensonge blanc de Simon? Alors, vous voyez, c'est typique scénario de film de Noël, Hallmark. On sait pas si ça va bien finir, mais oui, ça va bien finir.
C'est vraiment drôle parce que dans le fond, tu sais, c'est tout est Noël. Tu sais, là, ça serait comme deux podcasts de Noël en compétition, puis deux personnes tombent en amour et découvrent qu'ils sont pas nécessairement dans la bonne voie parce que c'est Noël, tout ça. C'est ça un film Hallmark. Il y a tout le temps des éléments comme il y a tout le temps des gens qui prennent un café parce que c'est réconfortant. Souvent on voit même que la tasse est vide parce que
c'est très léger.
C'est très léger. Il y a tout le temps des biscuits, des
maisons en pain d'épices, des compétitions entre deux petits commerçants, un petit commerce à sauver, un veuf, une veuve,
un village. Des fois aussi c'est comme il y a une vie rêvée.
Ouais.
Genre une personne qui est très 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 dans sa carrière, puis là tout d'un coup elle s'assomme et là tout d'un coup elle fait un rêve d'une vie parfaite avec une famille, avec une petite communauté dans un petit village, et là à la fin elle veut retrouver cette vie-là, donc.
Et ce que ça nous encourage à faire, c'est qu'il n'y a pas de petits rêves, parce que ce sont ces petits rêves-là et l'accomplissement de ces rêves qui sont accessibles et qui font la conclusion de chaque film Hallmark.
Oui, et moi, je regarde ça au deuxième degré parce que c'est... Tu sais, des fois, je trouve ça assez épouvantable parce que c'est sexiste, c'est catholique, c'est épouvantable, là.
Ben, Noël est principalement une fête chrétienne, alors c'est un peu normal que ça tourne autour des valeurs de la religion.
Mais
oui, deuxième degré, puis on n'a pas le choix parce que dans le film qu'on va vous analyser aujourd'hui, c'est assez loufoque et c'est pour ça qu'on a choisi de vous en parler. C'est vraiment le film qui nous a fait basculer l'an dernier dans cette passion de film allemand.
Oui.
Et je nomme A Journey Back to Christmas, qui a été réalisé en 2016 et qui met en vedette Candace Cameron Bure.
Candace Cameron Bure.
I bet you don't know what's coming tonight.
The Comet.
Takes a magical journey through time in a holiday movie destined to become your new Christmas favorite.
Miss, are you okay?
What is happening?
What year is it?
It's 2016.
It's nice to see you again.
Do I know you?
Also starring Oliver Hudson.
Can you dance?
And Tom Skerritt.
Do you believe in miracles?
Journey back to Christmas.
Attention, spoiler, divulgateur, c'est sûr que je raconte toute l'histoire avec tous les détails. Alors, l'histoire commence avec Anna, une fille en 1945 qui sort d'un cinéma toute triste après avoir vu un reportage sur la guerre, parce que tu sais, dans ce temps-là, dans les cinémas, là, c'était des reportages, c'était pas juste des films, c'était pas des films en fait. Puis on apprend que son mari a pas donné de nouvelles depuis des semaines, donc on comprend qu'il est mort au combat. Puis on apprend aussi qu'elle a un grand cœur parce qu'elle juge de pleurer alors que des soldats font quelque chose d'héroïque pour le monde. Puis là, elle dit que ses rêves sont brisés parce que tout ce qu'elle voulait, elle, dans la vie, c'est de bien tenir maison pour son mari. Mais là, vu qu'il est mort, elle a pas de but. Elle dit même « I have no purpose at all ».
C'est ça qui va être sa quête?
Oui. Là, son ami dit « Viens avec moi, je sais qu'est-ce qui va te remonter le moral ». Sont en train de décorer le gazebo pour Noël. Puis là, c'est la première mention du fameux gazebo parce que tout le monde, tout le temps, presque dans toutes les scènes du film, parle du gazebo. C'est un élément bien important. Le gazebo, c'est une petite coupole que le village décore à Noël. Puis c'est important au point que si ton ami a un mari mort, puis qu'elle dit qu'elle sent qu'elle a plus aucun but dans la vie, donc possiblement dépression, voire même idée suicidaire, ben ta première intervention, c'est de l'amener voir le gazebo. Moi, personnellement, j'aurais pris ça comme un genre de ta gueule, pas d'empathie, mais elle a l'air bien contente que son amie pense à ça, tu sais. Là, dans le gazebo, on apprend par un monsieur âgé qui va avoir une tempête de neige en même temps qu'une comète qui s'en vient. Puis là, la tempête va peut-être cacher la comète, fait que ça pourra pas être observé. Mais bref, le monsieur l'appelle Nurse Anna, donc infirmière. Donc, t'apprends pour la première fois qu'elle est infirmière. Donc, premier mystère, pourquoi Cassin est inutile? Mais bon, c'est une fille en deuil de son mari, décédée à la guerre, c'est un gros deuil, puis un des premiers signes de la dépression, hein, c'est de se sentir inutile, fait qu'il faut pas la juger, faut avoir de l'empathie, puis là, dans le gazebo, puis avoir un peu mieux.
Puis faut pas oublier qu'on est en 1945 aussi, fait que même si t'avais une carrière, hein, c'était plutôt la famille qui était importante.
C'est ça. Bon, ensuite, on se retrouve à l'hôpital, puis là, on rencontre sa collègue infirmière, Julia, qui vient de se fiancer avec un patient soldat. Puis là, on sait qu'il est soldat parce que, bien qu'il soit hospitalisé, avec une jambe dans le plâtre, accroché dans les airs, il porte son veston de combattant.
Ah, OK. Fait que depuis l'Europe, il a pas eu le temps de se changer.
Oui, c'est ça. Fait que peut-être que dans ce temps-là, il était, t'sais, il était moins à jour là, sur la stérilité puis toutes ces affaires-là. Là, il y a une scène, puis ah oh oui, on a
la stérilité, la stérilisation.
Oui, parce qu'il est pas stérile, hein, parce que ça, c'est un autre punch dans le film qui va arriver plus loin. Excusez. OK. Donc, il y a une scène très importante où on croise Anna, puis, OK, oui, c'est ça. Il y a un gars, un de ses collègues, il demande... si elle veut venir l'aider à décorer le sapin, tu sais, parce que tout le monde sait que les infirmières, il y a rien que ça à faire dans la vie, d'aller mettre des décorations de Noël. Puis là, elle répond, hey, j'ai des patients, je peux vraiment pas. Puis là, il dit, ah, mais tu peux-tu me garder la clé du placard à décoration? Puis là, écoute, j'ai même pas entendu la suite, là, ça avait l'air bien important, puis ça va être très important.
C'est très important. Elle garde la clé
dans
sa poche. Super important, notez ça.
Oui. Là, on retrouve Anna avec Toby, un enfant qui est son patient préféré. Puis qu'est-ce qu'elle fait pour s'occuper de lui? C'est qu'elle lit une histoire. C'est ça, sa job de nurse. Puis là, il avoue qu'il est bien triste de retourner à l'orphelinat le soir de Noël. Orphelinat, hôpital, lui, en tout cas, ça a l'air à le rendre plus triste de retourner à l'orphelinat le soir de Noël. Puis là, Toby parle pendant un nombre de minutes qui est comme inconsidérable pour un scénario d'une heure et demie de la fameuse comète, OK? Là, on apprend là que le deuxième sujet après le gazebo qui est bien important, c'est la comète. Puis, mais tu sais, c'est un phénomène astronomique intéressant, une comète.
C'est
hein?
super intéressant,
mais ça dépasse pas le gazebo. OK? Comète arrive en deuxième après le gazebo. Okay. Bref, Tommy demande si la comète est un miracle. Et là, Anna, elle sait pas. T'sais, c'est un miracle, tu sais, parce que même si elle est infirmière, elle a un gros manque de background scientifique pour expliquer les phénomènes astronomiques. Puis là, Tommy demande, c'est quoi la différence entre un miracle puis quelque chose qui fait juste arriver sans raison? Bonne question, Toby! Tu sais, on se demande tous les miracles puis quelque chose qui arrive sans raison puis les hasards de la vie. En tout cas, on va pas remettre en question leur croyance catholique. Là, Anna dit que tout est un miracle. Tu sais, la façon facile d'expliquer le monde aux enfants. Mm-hmm. Bref, là, Toby donne plein d'infos sur les comètes. C'est la comète d'Ivico qui reviendra dans 71 ans. On a beaucoup d'informations comme ça. Puis là, arrivent deux autres éléments très importants pour le film. Anna, qui prenait des photos depuis le début, oublie son appareil avec Toby. Puis là, elle dit « Oublie pas la comète! » Comme s'il pouvait l'oublier, il vient d'en parler pendant
15 minutes.
5 minutes que, tu sais, que j'ai quasiment fait fast forward tellement que c'était long, les explications de comète. OK. Bon. Là, Anna, elle s'en va chez elle, puis elle est incapable de participer à n'importe quelle festivité, même si ça concerne le gazebo. Puis elle tourne les pages d'un album photo de son mari, puis elle est chez elle, en robe, en talon haut, bien coiffée, bien maquillée, dans une maison parfaitement rangée. On se souvient là, qu'elle, là, son but dans la vie, c'est de bien tenir maison, puis elle a décidé de réaliser ses rêves, même sans son mari. Quand
c'est,
même, hein?
C'est quelque chose. Il n'y a pas de petits rêves.
Non, il n'y a pas de petits rêves. Le revirement. Un chien frappe à la porte. Il est perdu. On sait que tous les chiens perdus hein, vont frapper une porte. Heureusement, il y a un collier avec son nom, Ruffin. Ruffin. Tu sais, comme un peu Ruffin.
Oui.
Comme un peu gênant. Mais il y a une adresse. Fait que là, elle décide de braver la tempête, qui est une petite neige frivole à ce moment-là, pour aller le porter à ses propriétaires. Là, à date, je vous rappelle que la fille, elle se sentait inutile au début du film, puis elle est la seule, à date, qui se préoccupe pas juste du gazebo, OK? Parce qu'elle est infirmière, elle s'occupe de Toby, là, elle s'en va reporter un chien, bon. Elle arrive à l'adresse du chien, puis là, les propriétaires, Dottie, un personnage qui va s'avérer très important, et son mari sont vraiment contents. Ils disent qu'Anna est une héroïne. Puis là, Anna, avec son insécurité constante qu'elle a depuis le début du film, a dit qu'elle a rien d'un héros, que les héros, c'est les hommes comme son mari qui sont morts à guerre. Anna repart, mais son auto reste poignée dans la neige. Puis là, vu que c'est la tempête, puis que, tu sais, c'est de plus en plus fort, elle s'en va se réfugier dans une grange. Au même moment.
Une grange, c'est plus une shed qu'une grange.
Ouais, genre.
Une cabane.
Une cabane qu'on sait pas trop. Elle sort de où? La comète passe. Puis là, il y a comme un tremblement, pas de terre, mais de cabane. Un tremblement de cabane. Puis là, pouf! Elle atterrit en 2017 dans un monde... 2016. Dans un monde où des gens font du skate et regardent leur cellulaire.
Hey!
Choc! La pauvre Anna est tellement désorientée que ça rend les gens tout insécures autour, puis ils appellent la police. Là, on découvre deux policiers, Jake et Sarah. Là, ils l'amènent avec le chef de la police qu'on revoit jamais dans le film, puis on sait pas d'où il sort, pourquoi il est là à cette petite enquête-là, mais en tout cas, il y a pas de petite enquête comme il y a pas de petit rêve.
C'est ça.
Puis là, il amène Anna à la clinique, puis il réalise qu'elle a l'air de se passer en 1945. Le chef de police recommande l'hôpital psychiatrique, on le comprend, mais Jake est pas d'accord. Il dit qu'il va l'amener dans sa famille, la laisser se reposer un peu, puis il va enquêter. Puis si jamais elle fait des choses bizarres, genre plus bizarres que de se penser en 1945, il va faire ce qu'il faut. Mais en attendant, c'est Noël, fait que hein, soyons indulgents. Le chef de police lui dit ça, mais il dit « Gars, je vais te surveiller, là, parce que là, t'amènes une suspecte, là, ben, tu sais. » Fait que là, Jake apprend à Anna qu'on est en 2016, puis là, elle capote, mais là, lui, il a une empathie tout le long du film, il dit « Tout va être bien correct. » Puis là, il l'amène dans sa famille, puis là, on découvre les voisins potineurs de la famille. Puis là, moi, ça, c'est la scène qui me fait le plus rire, genre jamais 5 fois, parce que ça me fait drôle. La madame, OK, c'est une madame avec son mari puis son fils. Puis sont bien découragés parce que là, les voisins, ils ont amené une étrange. Mais sais-tu c'est quoi la plus grande peur de la voisine? Oui, tu le sais, mais les autres, savez-vous c'est quoi? OK, c'est que ce soit une vendeuse de timeshare. Parce qu'elle, elle connaît quelqu'un qui s'est fait avoir par un vendeur de timeshare que, dans le fond, il a dit une grosse histoire, puis c'était tout ça, c'était pour vendre un timeshare en Floride. Excusez.
On dirait tellement une affaire de scénario du genre « Hey, t'es pas game de mettre ça dans le scénario. Ben, tiens ma bière!
» C'est comme, parce que tout le monde sait, là, que les vendeurs de timeshare, là, pour vendre un timeshare, faut qu'ils fassent à croire qu'ils viennent de 1945, tu sais. Écoute, ça me fait trop rire. Bref, je me calme un peu parce que ça me fait trop rire, c'est trop drôle. Je peux pas croire que les gens qui écrivent ça, ils se font pas rire, là. Tu sais, je peux pas croire que
c'est
vrai, sûr
qu'ils se font rire.
OK.
Hey, on parle quand même de l'histoire d'une infirmière qui voyage dans le temps, là.
À cause d'une comète.
Pour comprendre le sens de Noël. Oui.
Puis là, il y a la même discussion dans la famille du policier. La sœur de Jake puis sa mère, là, sont pas trop, trop contentes, là, qui amènent une étrange, là, tu sais. Mais là, il y a une discussion qui a l'air, tu sais, vraiment, on pourrait faire une métaphore raciste avec ça, là. Mais là, ils disent qu'ils vont l'aider parce qu'elle a l'air de connaître le village. Donc, tu sais, elle est peut-être pas si étrangère au village que ça. Là, le policier, il commence son enquête, il commence à vérifier des faits révélés par Anna. Exemple, le gazebo. il cherche dans des archives, puis il a déjà été décoré, fait que elle dit pas juste hein, des niaiseries. Là, Anna, elle essaye de retourner chez elle, mais sa maison, c'est devenu une boutique bio sans gluten. Parce que ça aussi, c'est la modernité, hein? Puis là, elle s'en va à l'hôpital, mais l'hôpital s'est rendu une bibliothèque. Rien, tout a changé.
Tout
il se
a changé.
Plus comme avant. Puis là, elle se confie au policier, puis il est le seul qui a de l'empathie avec elle, tu sais. Il est le seul. Jake, là, tu sais, comme, il dit, là, que elle a raison, il y a bien des affaires qui n'ont pas d'allure, puis il va l'aider. Puis là, il y a une scène où la famille du policier, il donne des vêtements très contemporains, puis ils vantent les Uggs comparés aux talons hauts. Puis là, ils apprennent que les femmes, dans ce temps-là, portaient tout le temps des talons hauts. Puis là, ils essayent d'y donner des Uggs, mais finalement, elle trouve ça tellement dégueulasse. Puis c'est drôle, ça me rappelait ma grand-mère, parce que c'est sûr que ma grand-mère...
Elle n'aurait jamais mis ça de sa vie.
Elle aurait donné des Uggs. Mais là, elle fait un compromis avec des petits bottillons. Puis là, quand elle sort avec son look moderne, puis ça, c'est souvent une scène qu'on voit dans ces films-là, quand la fille sort avec n'importe quel look, puis là, un gars la regarde amoureusement. Puis là, Jake, lui, lance un petit regard amoureux,
oh.
Tu sais? Puis ça, c'est bizarre, parce que finalement, ils ont jamais une histoire d'amour, tu sais?
Mais c'est parce que peut-être qu'ils sentent qu'ils étaient déjà liés par quelque chose dans le passé qui les empêchait de...
Peut-être.
De se fréquenter, mais là, ça... Ça rend pas quelqu'un jaloux, ça?
Ben, c'est ça. Fait que là, il continue son enquête, il trouve son sac à main, il décide de faire des analyses sur des objets comme son parfum, parce que c'est une enquête très, très importante qui demande des analyses. Scène touchante où Anna et Jake dansent, puis là, sont pognés par la famille, tu sais, comme... Puis là, lui, à cause qu'il s'est fait pogner parce qu'il danse... Il est obligé d'aller s'excuser à sa mère. Excuse-moi, maman, on dansait dans le salon.
Hey, mon Dieu, c'est quand même un adulte qui oui. joue un rôle d'un gars beaucoup plus jeune.
Oui, parce qu'il joue tout le temps des rôles plus
pour
jeunes.
Pour vous situer, c'est Oliver Hudson, c'est le frère de Kate Hudson, oui. mais il est plus vieux qu'elle.
Celui qui joue Jake, oui.
C'est ça.
Puis là, sa mère, elle dit, ben, va expliquer ça à Sarah. Sarah, sa collègue, finalement, est comme un peu en amour avec. Fait que Sarah a fait une crise de jalousie au travail parce que là, le village est bien inquiet que leur enquête piétine. Je rappelle que l'enquête, c'est au sujet d'une étrangère qui dit qu'elle vient de 1945. Puis là, elle dit « Tu tripes dessus. » Puis là, il fait « Non. » Puis là, elle dit « Tu tripes sur la suspecte. » Parce que c'est une suspecte.
Mais suspect de quoi? Ils vont l'arrêter en bout de ligne, genre, vous êtes coupable de venir de 1945.
Oui, c'est ça.
Belle conséquence.
Puis là, la sœur de Jake, qui est comme raciste là depuis le début, tu sais, elle ouvre son cœur puis elle dit « On va faire un Noël ancien. » Fait que là, le Noël antique, c'est que ils s'en vont chanter des cantiques dans toute la ville, tu sais. Puis là, sais-tu qui est là? Le fils de la voisine patineuse. Puis il rencontre une petite blonde pendant la soirée du Noël antique. Là, il y a deux affaires, deux gros revirements. Anna découvre que le gazebo, il est plus décoré, puis elle est bien déçue de ça, puis elle dit, c'est pas pareil sans le gazebo. Deux, elle découvre que il y a un chenil, un refuge pour chien qui s'appelle Ruffin.
Comme le chien
qu'elle a sauvé. Mystère. Et le voisin, quand il revient chez eux, sa mère, il tombe dessus, l'air de dire, puis elle dit, c'est quoi l'affaire d'aller chanter des cantiques? Puis on dirait quasiment qu'il est allé voler des chars, tu sais, parce qu'il est allé chanter des cantiques de Noël. Puis là, elle s'en va se plaindre à Jake. Elle dit, la police fait pas sa job, sont supposés d'enquêter sur l'étrangère. Puis finalement, son fils est en train de devenir un délinquant qui chante des cantiques de Noël sans sa permission. Hey! Là, Sarah s'interpose, puis c'est la première fois qu'elle défend Anna. Puis là, Jake switch, parce que depuis le début, on est bien d'accord qu'il a l'air de triper sur Anna, mais là, il commence à triper sur Sarah. Puis là, il dit, sais-tu quoi? J'ai reçu les analyses. Puis elle dit la vérité parce que son parfum, c'est un parfum qui est discontinué depuis, genre, 1946, tu sais. Et puis là, il a pas oxydé!
Fait que s'il était resté dans sa sacoche tout ce temps-là, sans que la sacoche ait voyagé dans le temps...
Il aurait oxydé.
Il aurait oxydé. Oui. Mais là, parce qu'elle vient directement de 1945...
C'est vrai. C'est la preuve.
Hey!
Revirement. Anna, en fouillant dans ses poches ou dans sa sacoche, elle découvre qu'elle a la clé pour les décorations.
Du gazebo?
Oui!
Qui s'empêchait de décorer parce qu'il était pas capable
de payer.
De débarrer la porte. On n'est jamais trop loin d'un Target ou d'un Walmart.
Oui, c'est ça.
Mais ça, on pouvait pas y aller pour le décorer.
Non, non, non. Fait que là, elle a la clé pour les décorations. Fait que là, il découvre à la bibliothèque qui est l'ancien hôpital une porte qu'ils ont jamais rénovée, OK? En arrière d'un étagère de livres. Puis là, il ouvre la porte et là, il y a les décorations qui sont en super bon état pour des décorations qui sont restées là des années et des années. Là, le monsieur riche de la ville, monsieur Cook, il arrive puis on découvre que c'est Toby! L'enfant qui arrêtait pas de parler de la comète. Puis lui, là, ce qui est drôle, c'est que Toby, Depuis le début qu'elle, elle a disparu, Anna, qui pensait qu'elle avait fait un voyage dans le temps. Comment qu'elle a fait ces liens-là? On ne le sait pas.
Ben, parce qu'il a passé 15 minutes à parler d'une comète.
Ouais. Puis là, lui, il a sa caméra à Anna. Puis là, après là, que je vais avoir fini mon résumé, là, faut qu'on parle là, des affaires de futur, là, parce que en tout cas, bref, je continue. Il fait finir les photos, puis là, on voit qu'elle a vraiment raison, puis tout ça. Puis là, lui, il révèle plein d'affaires. Il dit que le couple de qui elle a sauvé le chien, ils sont retournés à l'hôpital pour la remercier. Ils ont trouvé Toby, puis ils l'ont adopté. Fait, grâce à elle...
Il a été adopté pour Noël.
Oui. Dottie puis son père, ils ont aussi dit, crime, c'est pas drôle de perdre un chien. Fait qu'ils ont ouvert le refuge pour chiens du nom de Ruffin grâce à elle. Là, on se souvient que c'est une fille, hein? No purpose at all.
Ouais, c'est-à-dire qu'elle savait pas à quoi elle servait dans la vie.
Elle savait pas à quoi qu'elle servait. Fait que là, elle a servi à faire adopter un petit gars, à faire ouvrir un refuge pour chiens. Puis là, elle découvre aussi, mais ça plus tard, là, que toute la famille de Jake, en fait, c'est les descendants de Julia puis le soldat là, qui gardait sa chemise de combattant. Fait que si elle avait pas existé pour présenter ces gens-là, ben il existerait pas.
Elle aurait pas de famille pour l'accueillir dans le futur.
Mais bref, oui c'est ça.
Très bon point.
Mais bref, là il apprend Monsieur Cook que Dottie est encore vivante. Puis ils s'en vont la voir, puis c'est une madame sénile, OK, qui est Alzheimer, puis que, tu sais, elle parle plus, puis tout ça. Mais quand qu'elle voit Anna, elle dit « Comète, comète ». Puis là, tout le monde pense qu'elle dit « Commente, commentez ». Puis là, ils disent tout « Commentez quoi? Qu'est-ce que tu veux? » »«
Commente ou comète? »
Et là, finalement, c'est là qu'ils découvrent que elle a voyagé dans le temps, puis que là, c'est la comète qui est responsable de ça. Fait que là, la comète, elle revient ce soir. Puis là, je te passe toute la partie de la consanguinité puis tout ça dans les révélations. Et là, elle retourne dans Grange Cabane.
Dans le gazebo. Dans la chaîne.
Puis là, tout le monde se met à chanter. Puis là, la comète passe. Puis là, ils s'en vont voir. Puis Anna, elle retourne chez elle. Et là, elle revient à son auto, elle est obligée de pelleter avec une branche d'arbre pour essayer de la déprendre. Et là, qui arrive? Son mari.
Son mari n'était pas mort.
Il était pas mort à la guerre. Et là, il l'aide à pelleter. Puis là, il déprend l'auto, puis il s'embrasse et ça finit comme ça.
C'était le résumé de Journey Back to Christmas par India Desjardins. C'est sûr qu'avec un scénario comme ça, il faut absolument débriefer sur quelques oui. scènes parce que c'est le scénario sans doute le plus absurde de oui. tous les films de Noël oui. produits par Crown Media, qui est la compagnie oui. de Hallmark, qui m'a été donné de voir.
Mais écoute, là, moi, l'année passée, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai ri, on s'est texté. Je t'ai dit, faut que t'écoutes ça, c'est comme, c'est trop drôle.
Je pense que c'est là qu'on a basculé.
Oui.
C'est vraiment le film qui nous a fait basculer.
Vouloir en voir de façon compulsive.
On a basculé dans l'univers spatio-temporel des oui. films Hallmark, comme le personnage oui. est tombé propulsé dans le futur avec le passage oui. de la comète. Mais moi, mon passage préféré, là, et tout est dans cette scène-là, là, c'est quand ils s'en vont voir la vieillarde Dottie, qui s'allume au moment où elle voit Candace Cameron Bure oui. arriver. Et le jeu tellement mauvais cette personne-là. Et plus tard, on va la voir à la fenêtre pendant qu'ils sont tous à l'extérieur devant le gazebo à chanter des cantiques. Bien oui, on la voit à la fenêtre comme s'il avait compris que son ami était retourné.
Mais cette scène-là, c'est fou parce qu'elle découvre, dans le fond, comment qu'il découvre que c'est la comète, c'est qu'il y a une carte postale de comète que Dottie a toujours gardée, qu'elle a reçue de Anna qui lui dit, tu sais, « Hey, j'ai réussi à me rendre. » Fait que ça veut dire là que Anna là est revenue, genre, dans le futur, est revenue comme... au moment où elle est partie, quasiment, là, elle est revenue le lendemain matin. Donc, elle a jamais quitté, dans un sens. Oui. Alors, pourquoi Toby a encore la caméra?
Il y a encore la caméra parce que, quand elle écrit la carte postale, elle est avec son mari, puis ils sont en voyage de noces qu'ils ont jamais pu faire à cause de la guerre. Oui. Fait que, probablement que, lorsque son mari est arrivé pour l'aider à déblayer sa voiture, ils se sont précipités parce qu'ils n'avaient plus de temps à perdre. À mon avis, c'est ça.
Sont morts? Parce que, tu sais, je veux dire, elle a pas d'enfant dans le futur. Il y a pas sa famille à elle. Fait que penses-tu qu'ils seraient morts en voyage?
Non, je pense qu'ils sont morts de vieillesse. Parce que si on se fie à Dottie, qui est vieille,
ouais.
Je pense qu'ils ont poursuivi leur rêve à l'extérieur du village, tu sais.
OK.
Je pense que...
Ils ont jamais eu d'enfant, peut-être?
Non.
Sont un couple?
Non, parce que...
Mais pourtant, elle voulait tenir maison.
Non, mais moi, je le sais, mais c'est parce qu'il y avait un habit d'armée et tu le sais, qu'est-ce que ça fait à la stérilité. Non, mais on rit, là, parce que au début, India s'est trompée entre stérilisation et stérilité. Moi, j'ai trouvé que c'était un super beau lapsus.
Oui, ça décrit très bien. Mais moi, ma scène préférée, c'est quand il découvre les décorations de Noël. Je me pouvais plus de rire. Et quand elle découvre... Parce que moi, la première fois que je l'écoutais, là, c'était en toute naïveté. Puis là, quand le personnage lui apprend que finalement, tout ça est arrivé pour les chiens! Et là, tu vois les chiens arriver. Écoute, je me pouvais plus. Je me disais, mais ça se peut pas. Donc, on adore ce film-là qui est complètement absurde.
Ce serait un bon film pour commencer.
Ouais, puis il y a aucune logique dans les affaires. C'est le pire film de voyage dans le temps qui existe, parce que rien n'est logique.
Et on va justement vous expliquer pourquoi. Parce que c'est le temps de la chronique Fact Checking. Chronique fact-checking pour A Journey Back to Christmas, parce que c'est l'éléphant dans la pièce, hein, la comète et les voyages dans le temps. Donc, on va regarder ça en deux temps. Notre protagoniste voyage dans le temps avec une comète qui a la propriété d'avoir assez d'énergie pour permettre ça. Alors, moi, vraiment, je vais m'intéresser davantage aux comètes si tel est le cas. D'abord, les comètes, faut savoir que ça fait partie du système solaire. C'est une boule de débris, de glace, puis de poussière, puis c'est la traînée de gaz, puis de poussière, tout ça qui est reflété par le soleil, qui fait en sorte que ça brille, puis qu'il y a une traînée en arrière. Ça peut faire des millions de kilomètres la queue d'une comète. La plupart des comètes sont périodiques, donc ils ont un cycle, puis ça revient. La plus connue, c'est la comète de Halley, qui une période de 70 ans. Donc à chaque 76 ans, la comète revient. Fait qu'on l'a vu en 1910, on l'a vu en 1986. Et d'ailleurs, la comète de Halley que la mission Challenger allait voir quand il y a eu la tragédie, là, que ça a explosé au décollage. On devrait la revoir en 2061. Donc, en Journey Back to Christmas, on parle de la comète de Vico. Là, on s'est tous demandé...
Ça existe-tu?
Ben, on n'est pas les seuls, parce que quand on fait une recherche sur Google, tu vois, les termes arrivent super vite. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui cherchent cette comète-là. mais non, c'est pas la bonne comète. C'est une comète, la comète de Vico, ça a été découvert par Francesco di Vico en avril 1844.
Il explique ça, Toby, dans son explication. Ouais.
Mais on l'aurait revu en 1894, en 65 et en 2002, fait que jamais avec le cycle jusqu'à 2016. Donc c'est pas cette comète là, c'est pas la bonne. Mais j'ai posé la question à Facebook s'il y avait une comète qui était passée en 45 puis en 2016. Et il y a Pierre Paquette qui est le rédacteur du magazine, rédacteur en chef du magazine Astronomie Québec, qui a répondu à mes questions avec beaucoup de rigueur. Il s'est rendu sur la page des comètes de 2016. Il a reculé dans le temps pour voir si il y avait eu une période qui était entre 45 et 2016 ou s'il y avait une multiplication de périodes qui faisait en sorte que ça pouvait aussi passer à ces deux années-là. Il en a trouvé une, c'est la S1P Pan Stars,
qui a un nom moins sexy.
Un nom moins sexy, qui a une période de 24 ans, puis son passage près du Soleil était en 2017. Fait que si on recule avec la période, avec sa période de 24 ans, ça nous amène jusqu'en 1945. Mais il me dit que c'est pas une comète qui brillait assez
pour qu'on l'observe.
Puis il dit, tu sais, si la comète a influencé la vie des personnages, ben elle devait être plutôt brillante.
Ouais. Donc ben on le voit d'ailleurs dans un très bel effet spécial.
Fondu.
un effet qui date de 1945.
Ouais, on dirait une reconstitution avec les effets spéciaux de l'époque de 1945 oui, au ça. Lieu des effets spéciaux de 2016. Oui. Et là dans un deuxième temps, j'ai quand même posé la question. Et donc, je me suis adressée à un astrophysicien émérite. On écoute sa réponse. René Doyon, astrophysicien à l'Université de Montréal, directeur de l'Observatoire du Mont Mégantic et directeur de l'Institut de recherche sur les exoplanètes. René, est-ce que ça se peut que l'énergie d'une comète soit suffisante pour faire voyager une personne dans le temps?
Ben, écoute, c'est possible de voyager dans le temps, mais il faut aller très, très, très vite. Il faut approcher la vitesse de la lumière. Donc, en principe, oui, si on sautait sur une comète, on pourrait aller très, très vite. Mais malheureusement, les comètes ne vont pas assez vite. L'autre chose aussi, c'est que si tu arrivais à voyager aussi vite que ça, tu irais dans le futur, mais ça serait impossible de revenir dans le passé.
Ça clôt la question. Alors, non. Candace Cameron Bure n'a pas pu voyager dans le temps en se cachant dans la tempête, dans un cabanon shed / grange, en se servant de l'énergie de la fausse comète de Vico. Dossier classé. Alors, on va jouer les agrégatrices de contenu, Indy et moi, parce que si vous avez aimé notre résumé de A Journey Back to Christmas, ça se peut que vous aimiez aussi les films qui nous ont aussi fait vibrer, nos films préférés. Ben, c'est tous nos préférés, là, mais pour ceux-là, on a vraiment une préférence plus.
Ben moi là c'est le film qui m'a fait aimer les Hallmark movies, c'est Snow Globe Christmas avec Alicia Witt, qui est une de nos préférées quand même.
Oui.
Une actrice rousse super cute, et c'est donc une productrice qui est comme ben dans sa carrière. Puis là, elle se cogne la tête et elle se retrouve, puis ça moi c'est mes préférés là, les vies rêvées là. Elle se retrouve dans une vie rêvée qui est en fait une espèce de snow globe. Fait que c'est comme si elle se retrouve dans une boule de Noël, et elle a une famille, elle est dans un petit village, puis tout ça. Puis là, quand elle revient, elle veut retrouver, dans le fond, cette famille-là qu'elle a tant aimée dans le snow globe, dans le fond. c'est vraiment mon film préféré. C'est lui qui a ouvert mon cœur. Je l'écoute à chaque année.
Moi, j'avais même pas compris qu'elle était prise dans un snow globe. À chaque fois que tu me le racontais, je serais même... Pourquoi qu'elle reste là? Pourquoi personne s'en... Mais elle est prise dans un snow globe. Moi, c'est le médaillon de Noël, The Christmas Secret, puis ils en ont fait des sequels en plus de ce film-là. C'est comme une longue, longue thématique. C'est sorti en 2015. C'est l'histoire de Christine, une mère célibataire qui lutte pour joindre les deux bouts, là, évidemment. Elle vient d'emménager dans une petite ville. Ça fait 4 mois qu'elle est là, à Wilsonville. C'est au Vermont, parce que la plupart des films se passent au Vermont. Donc, un matin, elle sauve la vie d'une dame qui est victime d'une crise cardiaque au volant de sa voiture. Puis, en la secourant, elle va égarer le médaillon qu'elle porte au cou. Ça représente l'étoile solaire, puis ça vient de son père qu'elle n'a jamais connu. Donc, un jour, Christine, elle arrive en retard au restaurant où elle travaille. Elle se fait renvoyer, puis elle se rend compte qu'elle a perdu le médaillon. Et ça va pas bien sa journée.
Non.
Donc, à 3 semaines de Noël, le sort s'acharne sur elle. Elle apprend en même temps que son ex-mari veut obtenir la garde des enfants, Zach et Kelly, puis qu'elle va se faire expulser de sa maison. Mais Judy Wilson, qui est la femme dont Christine a sauvé la vie, va charger Jason, son petit-fils, qui est beau comme un cœur, de la retrouver. Et Christine, elle arrête pas de le croiser. Elle le croisait de toute façon avant. Donc, elle pense au début que ce gars-là, il est là pour l'espionner pour le compte de son ex-mari. Mais ça finit bien parce qu'elle va finir avec Jason puis ils vont se rendre compte que le médaillon, ben...
Il est magique?
Il est pas magique. Ça le lie à sa famille et que la vieille dame...
C'est elle?
Ben, elle va retrouver sa famille dans le village grâce au médaillon.
Ah! Oh.
J'en dis pas plus long.
Fait que c'est pas fantastique.
C'est pas fantastique, c'est juste une succession de hasards. Et okay. C'est pour ça que j'aime beaucoup le médaillon de Noël. Et je sais que tu regardes deuxième degré les films, mais moi, je regarde ça très premier degré. Et ça m'amène à vous annoncer que pour le prochain podcast, on va se concentrer sur un film pour lequel j'ai pleuré pour vrai.
Hein?
Je me suis vraiment fait prendre, je te jure.
Pemberley Manor?
Pemberley Manor. J'ai pleuré.
Non, là, va falloir qu'on en reparle.
Va falloir qu'on en reparle, qu'on se fasse une thérapie. Donc, Pemberley Manor avec un acteur qui est super connu dans les films Hallmark qui s'appelle Michael Raddy, qui est très beau, il porte la barbe dans celui-là, ça lui fait vraiment bien, ça découpe son visage. Alors, pour la semaine prochaine, Pemberley Manor. Merci d'avoir été à l'écoute.